Mais seul changement cette année, sur les affiches, il est hilar. Michel, bonjour.
Hilar, c'est peut-être
exagéré. On voit toutes tes dents.
Hilar par rapport à d'habitude.
Oui, oui, mort de rire.
C'est plus souriante. C'est pratiquement mort de rire.
Non, c'est un franc sourire.
C'est un franc sourire. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait rire comme ça. Parce que je sais que tu es les photos, tu es intimide. Qu'est-ce qui t'a fait rire pour
d'abord, je ne savais pas qu'on prenait la photo à ce moment-là.
Voilà.
C'était une photo volée pendant le tournage du clip du cinéma d'Audiard.
Oui.
Et on devait se dire quelque chose d'amusant et le photographe a shooté au moment où je souriais.
Mmh.
Et ça a tellement surpris la maison de disques, l'entourage, etc., qu'ils m'ont fait la surprise d'en faire une affiche en 4 morceaux.
Ouais.
Alors là, j'ai été scié quand je me suis vu moi aussi sourire. D'ailleurs, je ne me suis pas reconnu. J'ai d'abord pas fait gaffe, j'ai pas cru que c'était moi qui... Parce que si tu savais la première affiche, le plan de la première affiche, ce que c'était, c'était terrible.
Oui.
C'était terrible.
Tu grognais ou quoi?
Ah non, c'était... Je sais pas, c'était un enterrement de première classe. Enfin, je faisais comme d'habitude.
Non, mais c'est pas la peine que tu dis, en fait.
Voilà, alors oui. Celle-là, elle a fait plaisir.
La première fois que je l'ai vue dans Paris, je t'assure, j'ai failli rentrer dans la voiture qui était devant.
Moi, je me suis pas reconnu, j'ai téléphoné à ma maison, je dis merde, je suis pas affiché.
Non, mais c'est plutôt une réussite, hein. Tu sais que t'es beau comme ça aussi.
Non, mais
hein.
C'est bien, je suis content, oui. Ça fait plaisir à plein de gens, puis ça prouve que je me repars toujours, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut savoir, bon, c'est ce soir la première, est-ce qu'on peut savoir quelques petites, je sais pas, les petites surprises que tu nous réserves? Juste une, quoi. Je sais bien que c'est pas marrant de dire ça, mais...
Oui, c'est difficile de dire les petites surprises. Je pense qu'il y a plusieurs. Il y a une belle mise en scène, il y a une belle lumière. Bon, enfin, tu sais, moi, je suis un chanteur un peu classique, traditionnel. C'est une voix d'abord, une musique, un plateau et des belles chansons.
Oui.
Hein, alors,
et des textes.
Bon, alors j'essaye... Ce que j'essaye de rendre cette fois-ci à Bercy, j'espère y parvenir, c'est de l'humaniser un peu. C'est-à-dire que le public n'ait plus peur de la grandeur de la salle. Parce que curieusement, j'ai remarqué que c'était le public qui avait plutôt plus peur de la salle que moi. Quand il se voit tout en haut, là-haut, dans les gradins, et qu'il voit ces Pyrénées, là,
ils sont 13 000 quand même. Hein,
oui, se développer sous eux, là, ça les impressionne un peu. Alors ça va les rassurer, je les éclaire. Ils ne sont pas séparés du décor, ils ne sont pas séparés de moi.
Intégrés alors au décor.
Ils font partie du spectacle, parce que je trouve que le public est beau dans cette salle.
Oui. C'est vrai.
Alors, il n'y a pas de raison de se priver d'une belle image, de l'image que j'ai moi, en fait, que je vois moi et qu'eux ne voient pas parce qu'ils sont dans le noir.
Il y a combien de personnes sur scène derrière toi?
Il y a 18 musiciens sur scène derrière moi et en tout, avec les techniciens, je crois qu'il doit y avoir 120 personnes.
120 personnes.
Oui.
Alors après Bercy, il y aura 60 jours de tournée, puis le Canada pour 15 jours, et de nouveau 60 jours de tournée. Mais ça, on en parlera si tu veux tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de questions, tu t'en doutes, de la part de nos auditeurs pour toi.
D'accord.
On va commencer avec Ludovic Derignard, il habite à Caen, dans le Calvados. Il demande si tu as des projets de films ou de théâtre, et pourquoi ne jouez-vous pas plus souvent au cinéma?
Des projets de films, je suis toujours prêt. Des projets de théâtre, tu le sais, ça c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, puisque je voulais faire ça. Alors j'y viens petit à petit, chaque année on s'approche un peu plus. Il faut trouver une pièce, il faut avoir le temps, il faut se décider. Depuis 5 ans, on s'approche. J'arrive.
Tu veux plutôt une comédie?
Je dis rien. Oui, moi je veux du théâtre amusant. Je veux du théâtre populaire parce que parce que ça m'amusera plus d'aller entendre rire que... Voilà. Et puis je pense que ça conviendra mieux au public que j'ai aussi, qui vient me voir au spectacle pour chanter. Et je crois qu'il sera content de venir me voir au théâtre pour rire un peu. Ce sera pas mal. Alors le film, j'en ai fait avec des...
Mais oui, c'est pour ça qu'il pose la question, sans doute. Il a envie de te revoir.
Eh bien, je reviendrai un jour, j'attends. J'ai toujours Kamaka qui a toujours un rôle de Bernard Tapie à me faire jouer. Parce que pour Kamaka, je suis éternellement Bernard Tapie au long du cinéma. Mais j'attends qu'il ait fini son scénario, je le ferai.
Mais si tu le joues comme au Guignol, il est génial. Hein?
Oui, oui, oui.
Hein?
Il te voit comme ça.
Oui, tu sais, il me fait toujours homme d'affaires, un peu très malin.
Dans
Promotion Canapé, c'est un ministre, oui, et puis un peu plus salaud quand même.
Mais ça t'appelle attaché quand même. Là.
Oui, oui, j'ai encore un truc autour de ça, et puis j'espère pourquoi pas d'autres films.
Jeanne Beaufort, qui habite à Saint-Étienne, j'ai formulé sa question d'une manière différente. En fait, ce sera sa question, mais moi je vais la formuler autrement. Si demain on te disait, Michel, il faudrait que la Bibliothèque Nationale conserve un de vos albums, Monsieur Sardou, parce que c'est très important pour les générations futures, qu'ils puissent se rendre compte lequel tu donnerais.
Je crois qu'il faut toujours donner le premier disque. Parce disque, sans plaisanter, le premier disque n'était pas bon, hein. Mon premier disque, il n'était pas formidable, mais j'ai l'impression que toute sa vie, on refait la première chanson. On s'améliore toute sa vie à partir de son premier élan. Ce qui m'a donné envie d'écrire une chanson, maladroite au début, évidemment, c'était pas... je l'ai améliorée au fil des années, donc je crois que le tout est déjà dans le premier jet.
Et la première chanson, c'était ?
Et la première chanson, c'était Les Arlequins.
Les Arlequins.
Les Arlequins. C'était une chanson, bon, qui n'avait pas un grand intérêt en elle-même. C'est pas...
Oui, mais tout était là en germe déjà. Enfin,
c'est mon principe. Tu sais, quand tu lis un auteur ou un poète, je ne me compare pas à ces gens-là, naturellement. Ça n'a rien à voir. Mais tout est toujours dans la première fois. Le premier amour conditionne tous les autres. Le premier chagrin qu'on dit vaccine pour tous les autres, et je crois que la première chanson tient en germe toute la personnalité qui va se développer, s'affiner après. Alors il y a le métier qui rentre, la technique, mais je crois que c'est le premier jet qu'il faudrait garder toujours.
Finalement, il y a que la première connerie qui ne sert à rien.
Oui, et la dernière.
Frédéric Boitron, il habite à Lille dans le Nord. Est-ce que vous parlez couramment anglais, vous qui avez une maison en Floride?
Je parle un anglais courant.
Tu te débrouilles.
Couramment, c'est beaucoup dire. Je parle un anglais courant, mais suffisamment pour vivre très bien, me faire comprendre. Et surtout, j'ai oublié complètement le complexe de l'accent, le complexe d'être français. Parce que ce qu'on a en Amérique, c'est qu'on continue à fabriquer nos phrases à notre manière. Donc, et puis, on a toujours peur d'être un peu ridicule. Un Français qui ne sait pas parfaitement quelque chose se sent déshonoré. Or, je me suis rendu compte que les Américains ne parlaient pas du tout français, parlaient rien, ne parlaient qu'américain, ils n'en ont rien à foutre. Oui. Et comme là-bas, il y a des accents multiples, un type du Texas est incompréhensible pour un gars de Floride. Ils se comprennent pas entre eux. Donc là, je parle un Américain tout à fait sûr de moi, avec des fautes énormes, mais je me fais comprendre très bien, il n'y a aucun malaise, et celui qui me fait une réflexion...
Oui. C'est ce que j'appelle l'anglais de survie.
Voilà, c'est l'anglais de survie, voilà. Oui. C'est un anglais, mais avec conviction. Hein.
La dernière question est de Paul Prerban, elle habite à Orléans. Quelle relation entretenez-vous avec votre mère? Est-ce que vous la voyez souvent, et est-elle la même personne en public et en privé? Il y a trois questions là. Oui. Et l'avez-vous vu jouer le Clan des Veuves?
J'ai vu jouer le Clan des Veuves. Je vois ma mère peu, régulièrement, mais peu, parce qu'elle est très prise par le Clan des Veuves d'abord, parce qu'elle travaille beaucoup. Et je peux vous assurer qu'elle est à la scène comme à la vie.
C'est la même, hein?
C'est la même.
Oui, on s'en doutait, tu vois.
Non, il n'y a pas vraiment de différence. Je ne crois pas.
Michel, est-ce que tu aimes approcher de près ou de loin l'astrologie? Est-ce que tu lis de temps en temps ton horoscope dans un journal?
Non, mais j'ai une belle-sœur qui tire les cartes, qui connaît l'avenir, qui fait la boule, qui fait tout. Alors quand elle me dit que tout va bien, ça va. Quand ça commence à être mauvais, je la jette.
Bon.
Je l'écoute pas. Je crois quand c'est bon.
Écoute, dans un instant, Meredith Duquesne va tracer ton portrait astrologique, si tu veux bien.
Très bien.